Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
La semaine se termine en pente douce et la libre antenne du dimanche soir commence, comme une transition entre une semaine et une autre, entre des moments de vie et d'autres. Savez-vous qu'au Danemark, il existe des bibliothèques où vous pouvez emprunter une personne au lieu d'un livre pour écouter l'histoire de sa vie pendant 30 minutes. L'objectif est de lutter contre les préjugés. Chaque personne a un titre, chômeur, réfugié, bipolaire, dépressif, porteur de handicap, etc. Mais en écoutant leurs histoires, on réalise à quel point il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ce projet innovant et brillant est actif dans plus de 50 pays. Il s'appelle la Bibliothèque humaine. Eh bien, je vous propose que notre libre antenne soit un peu comme cette bibliothèque humaine dans laquelle chacun pourrait venir raconter ou écouter, juste pour nous apprendre et nous mettre les uns à la place des autres. Si vous avez envie de venir vous raconter ce soir, vous prenez votre téléphone et vous faites le 3921. Nicolas et Lucas vous guideront ensuite jusqu'à moi. Et vous savez bien sûr que vous pouvez à tout moment réagir par SMS en tapant le 739-21, suivi du mot « nuit » et de votre message. C'est Cyril qui réalise notre émission ce soir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Béatrice, mais pas que, dirais-je. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir Sabine. Voilà, mais pas que, comme vous dites. Et Hugo, bah, qui souhaitait vous souhaiter votre fête, voilà.
Alors, pardon, expliquez-nous un petit peu qui est Hugo, parce que moi je le sais, mais tout le monde ne le sait pas forcément.
D'accord, bah c'est un jeune homme qui a un handicap, hein, mais qui est, pour moi, il est très intelligent et il se rappelle de plein de choses. Et là, dans la journée, il me dit, mais maman, c'est la fête de Sabine et je voudrais lui souhaiter sa fête, voilà.
C'est adorable.
Parce que comme il vous avait eu au téléphone il y a déjà quelque temps, et moi aussi d'ailleurs, et qu'il vous aime beaucoup, hein, enfin, il vous écoute régulièrement, ça le fait se coucher tard.
Je suis désolée.
Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Et là, bah, on pensait simplement souhaiter la fête au standard, hein, parce que bon, bah, vous êtes quand même très demandé. Et puis, du coup, bah, on m'a dit, bah, si vous voulez, il peut souhaiter la fête à Sabine directement. Voilà.
Alors, passez-le-moi.
Oui, Hugo. Alors là, il écoute à la radio, là, en ce moment. Alors, bon, voilà. Tiens, tu as Sabine, Hugo.
Oui.
Attends, Hugo. Tiens.
Allô?
Allô, bonsoir, Hugo.
Allô?
Bonsoir Hugo, tu m'entends?
Ouais.
C'est Sabine, tu passes à la radio là maintenant.
Bonne fête!
Merci Hugo, c'est gentil d'y avoir pensé.
Ouais.
Ça me touche beaucoup. Comment tu vas?
Je vais bien. Je vais dans la chambre du groupe.
Bon. Ben, je suis désolée, voilà, c'est un grand parleur, mais là, il est tout, mais je crois qu'il va être très heureux de vous avoir fêté la fête directement, quoi.
C'est très gentil, bon, après, ça me fait plaisir d'avoir ces nouvelles aussi.
Ben voilà, exactement, Sabine, et bon, ben là, il est tout perturbé, tout, voilà, et tout content. Bon,
je vous fais un gros bisou à tous les deux.
Eh ben, c'est très gentil, Sabine, écoutez, on vous embrasse aussi tous les deux.
À bientôt.
À bientôt,
Hugo. merci de ton appel, Hugo.
Voilà, Sabine te dit merci de ton appel. Allez, bisous, voilà.
Bisous. Merci.
Merci, Sabine, et à une prochaine fois.
À une prochaine fois. Voilà. Au revoir, Béatrice.
Au revoir, Sabine, au revoir. Oui, Hugo.
Et on enchaîne?
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Un petit clin d'œil sympathique pour démarrer cette émission. Et c'est maintenant Maxime que j'accueille avec plaisir. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, ben merci. Ça me fait plaisir de passer à l'antenne.
Ben, je suis ravie que vous soyez là. Alors racontez-moi votre histoire qui m'a l'air bien intéressante.
Oui, bah en fait, j'appelle ce soir oui, pour raconter mon histoire. Tout simplement, en fait, avant, j'étais une fille et donc là, je suis devenue un garçon, tout simplement.
D'accord. Alors, quel était votre prénom de fille, d'ailleurs ?
Alors, ça, c'est une question qui ne se pose pas, justement.
Ah bon ?
Oui. Alors ça, justement, dans le milieu, on va dire, trans, ouais. c'est une question qui se pose pas parce que c'est quelque chose qui peut faire mal, qui peut être très douloureux justement. Et en général, les personnes dans ma situation n'aiment pas dire leur ancien prénom.
D'accord, bah vous me l'apprenez ce soir, merci, j'aurais appris quelque chose avec vous. Désolée, je ne savais pas du tout que ça pouvait faire mal.
Ah mais il n'y a pas de mal, c'est justement une raison pour laquelle j'appelle également. C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas des fois des petites choses toutes simples et... Ouais. Ça part pas forcément d'un mauvais sentiment, mais voilà, ça fait partie de ces petites choses à savoir. Voilà.
D'accord, bah c'est très bien, c'est très bien de partager ça avec nous. Je vous en remercie parce que c'est vrai que c'est de la maladresse effectivement, et on peut ne pas se rendre compte comme ça a été mon cas. Là, je vous présente mes excuses en tout cas, Maxime.
Ah mais je vous en prie.
Alors, est-ce que je peux vous demander quand même comment vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas conforme pour vous ?
Alors, moi, ça date d'il y a très très longtemps, quand vraiment j'étais enfant, on va dire, je m'étais aperçu qu'il y avait des choses qui étaient pas tout à fait logiques, qui étaient pas tout à fait normales, mais ça me passait assez outre. On va dire que c'est vraiment plus à la puberté, la poitrine, les premières règles et tout ça, c'est là que je me suis dit vraiment, il y a un pépin, il y a quelque chose qui cloche.
Et à partir de là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
À ce moment-là, déjà on ne comprend pas, on s'interroge et puis on se dit qu'il y a quelque chose de pas juste, de pas normal. On se met à observer les garçons, on se met à observer les filles et puis on essaye de se trouver dans tout ça et puis on n'y arrive pas. Quand on se regarde dans le miroir, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de pas logique. On voit tous les garçons, enfin pour ma part, on voit tous les garçons qui commencent à prendre un petit peu de barbe, qui commencent à avoir la voix qui mue, tout ça. Et puis moi, bah, j'étais là avec mes règles et ma poitrine à me dire mais c'est pas juste,
c'est comme si vous disiez c'est pas mon corps, c'est ça ?
C'est ça, ça fait complètement un sentiment comme ça.
Je me suis gourée de corps à la naissance pour commencer.
Oui, c'est ça. Il y a eu une erreur à la livraison, c'est un peu ça. Donc, c'est pas forcément évident, on va dire.
J'imagine, oui.
Oui, il s'en est suivi plusieurs années de dépression ensuite, ça a été très compliqué.
Est-ce que vous avez pu en parler à ce moment-là, au moins à vos parents ?
Alors, oui, justement, ce qui s'est passé, quand j'ai eu 14-15 ans, je dirais, j'ai commencé à en parler à mes parents. Puis mes parents n'ont pas trop compris à l'époque. Ils n'ont pas rejeté, mais ils n'ont pas compris. Puis je pense surtout avec le recul aujourd'hui que oui, ils étaient désemparés. Ils voyaient bien qu'il y avait un mal-être, qu'il y avait une souffrance, mais ils ne savaient pas quoi faire, quoi dire, où m'orienter. C'était très compliqué. Donc à l'époque, je me souviens avoir, je pense que c'était en plus plus ou moins au début d'Internet à la maison. Je me rappelle tous mes copains n'avaient pas forcément Internet. Moi, j'avais Internet à la maison. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur Internet. À l'époque, c'était les blogs, trouver d'autres personnes dans mon cas. Et puis, je m'étais aperçue à l'époque que c'était extrêmement compliqué d'entamer une transition. Ça se faisait quasiment que sur Paris. C'était très, très, très coûteux. Il fallait des années de suivi psychiatrique. Les opérations, c'était tout simplement une catastrophe, je trouve. Enfin... C'était très, très difficile d'avoir un résultat acceptable. C'était très mal compris par la société, encore aujourd'hui. Mais bref, à l'époque, du haut de mes 15 ans, ça me paraissait vraiment insurmontable. Ouais.
Vous aviez des frères et sœurs ? Vous avez des frères et sœurs ?
Non, du tout.
Non. D'accord.
Il n'y a que mes parents.
D'accord.
Donc, ensuite, ce qui s'est passé vers 14-15 ans, bon, j'ai malgré tout réussi à trouver un groupe de copains, d'amis... avec qui ça passait plutôt bien. Ils acceptaient de me parler au masculin. Ils me parlaient avec un nouveau prénom. Donc, ça se passait plutôt bien jusqu'à 18 ans, on va dire, le bac. Et ensuite, après le bac, il a fallu trouver un travail, trouver un logement. Et donc, à partir de là, c'était difficile pour moi auprès d'un employeur ou autre de
prendre,
de dire,
bah, oui, en fait, de prendre vraiment sa place quand on ne sait pas où aller, quoi.
C'est ça. Et puis, je ne me sentais pas... on va dire crédible, on va dire j'avais vraiment une silhouette de fille, une voix de fille, tout ça, j'avais peur d'être d'être ridicule, tout simplement. Donc, c'était compliqué. Donc, j'ai vécu ensuite de mes 18 ans à... Aujourd'hui, j'ai 30 ans. De mes 18 à 28 ans, on va dire, dans le mensonge avec moi-même, tout simplement. Ça a été très compliqué. Je me suis dit, il faut que je fasse ma vie. Et puis, un beau jour, je vais mourir et je me réincarnerai en beau garçon. Voilà comment j'ai tenu toutes ces années-là.
Et sur le plan amoureux, vous étiez attirée par des femmes ou par des hommes ?
Alors moi, ça a toujours été les femmes. Mais bon, après, le genre et la sexualité, c'est deux choses qui sont complètement différentes.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes trans, dans mon cas, donc qui sont devenues des hommes, mais qui sont attirées par les hommes. À l'inverse, il y a des femmes trans qui sont donc du coup devenues femmes et qui sont attirées par les femmes. C'est deux choses complètement différentes. Genre et
la sexualité. Et les attirances sexuelles, oui, je vous posais la question pour cerner un petit peu comment vous avez vécu toutes ces années-là. Comment vous faisiez par rapport au travail, par exemple ? Comment est-ce que vous vous habilliez ? Comment est-ce que vous arriviez à prendre un rôle, finalement ? À jouer un rôle ?
C'était compliqué, parce que... ensuite, j'en ai plus reparlé à mes parents, donc ils ont pensé tout simplement que c'était l'adolescence, à l'époque, on cherche tout ça. Mais c'est tout simplement que j'avais enterré les choses, y compris pour moi-même, pour ne pas souffrir. Comme ça me paraissait impossible de changer, j'ai tout enterré. Donc, ce qui s'est passé ensuite... c'est que j'ai vécu toutes les années qui ont suivi en tant que fille, on va dire. Alors, j'ai jamais été dans la féminité. Hein. J'ai toujours eu des habits très masculins, une façon de me tenir, un comportement masculin. Enfin, sans dire qu'il y a des stéréotypes ou des clichés, j'ai jamais été attirée par le fard à paupières, quoi, pour vous dire. J'ai jamais souhaité porter de soutien-gorge ou de lingerie, de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avec toutes mes anciennes compagnes que j'ai pu avoir, avec mes anciens employeurs et tout ça, j'étais identifiée en tant que fille et ça me paraissait impossible de faire autrement. Donc j'essayais de ne pas y penser, de faire ma vie sans y penser, en me raccrochant vraiment, c'est ce qui m'a fait tenir toutes ces années, en me raccrochant vraiment à l'idée qu'un jour j'allais mourir. Alors bon, sans souhaiter forcément le suicide, mais je me suis dit... 80 ans, 90 ans, un jour je vais mourir et je me réincarnerai en beau garçon.
Je refais un tour de manège différent. Oui.
Oui, c'est ça.
Mais vous n'avez pas pendant toute cette période-là croisé des gens qui avaient franchi le cap de l'opération depuis ?
Eh bien non, j'ai jamais eu cette chance-là justement de croiser des gens qui avaient vécu ça. Ouais, non. Et j'ai jamais eu cette chance-là auparavant. Donc, moi, j'étais restée bloquée sur le fait que c'était extrêmement compliqué de changer de prénom. Tout ça. Je ne voyais pas d'évolution possible. Ça me paraissait coûteux, insurmontable et difficile.
Et vous avez laissé ce cadre-là de croyances restrictives. Et vous êtes restée dans ce cadre-là, en fait.
C'est ça. Mmh. Je refusais moi-même de voir. Parce que dès que j'essayais de regarder un peu les garçons pour me comparer à eux, c'était toujours... toi, tu ne seras jamais comme ça. Toi, tu ne seras jamais comme ça. Tu n'auras jamais une jolie barbe. Tu ne seras jamais pris au sérieux. Toutes ces choses-là. Donc, je n'ai jamais regardé les garçons parce qu'à chaque fois, ça me faisait toujours un sentiment d'infériorité, de vulnérabilité, d'échec aussi, d'échec, d'injustice.
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Quel a été le déclic ?
Ça a été des déclics progressifs, très progressifs, des petites choses par-ci par-là, assez récentes même d'ailleurs, parce que j'ai tellement mis d'énergie à enfermer tout ça dans cette petite boîte, j'appelle ça la petite boîte que j'ai enterrée, que j'ai enfermée, cadenassée, que j'ai tellement mis d'énergie à ne plus y penser. Que quand ça a pété, quoi. C'est vraiment comme ça. Ça a pété d'un coup, mais c'est venu quand même assez progressivement avec des petites choses. L'un des premiers déclics, ça a été l'élection de Mariko. On en a parlé sur pas mal de chaînes télévisées. C'est l'élection, c'est Madame la maire de, alors que je ne vous dise pas de bêtises, de Tilloy les Marchiennes, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc c'est une femme transgenre qui a été élue maire de sa commune. Et elle est passée sur beaucoup de plateaux télé pour parler de son parcours.
Ben, je suis passée à côté, je vous avoue, je l'ai pas vu.
Et donc ça m'a fait un déclic. Je me suis dit waouh, quel courage, ça, plus différentes choses et des petits témoignages que j'ai pu voir à la télévision, que j'osais enfin regarder, parce que dès qu'il y avait une émission à la télévision qui parlait de transidentité, je changeais immédiatement de chaîne, parce que je savais que ça allait toucher un point sensible. Et ces derniers temps, ces deux dernières années, je sais pas, peut-être un mélange de faiblesse ou de courage de ma part, un peu des deux, je me suis mis à nouveau à essayer de regarder des témoignages à la télé, partout où je pouvais en trouver, et puis petit à petit, ça germait en moi. Cette petite boîte que j'avais soigneusement enterrée, elle s'est rouverte progressivement. Je suis tombée sur des chaînes YouTube également avec des gens qui ont partagé leur parcours, qui ont expliqué que c'était possible. Et donc tout ça, petit à petit, ça, je me suis dit, mais arrête quoi. Vis ta vie, ne vis pas pour les autres. Arrête de jouer ce rôle-là de fille résignée qui n'est pas dans le bon corps. Je me suis dit, arrête ça. Je me suis dit, t'as encore 50 ans, 60 ans à vivre. Tu peux pas les vivre comme ça.
Vous êtes enfin autorisée à être vous ?
Oui, c'est ça. Mais donc, quand ça a pété, ça a pété. Hein. J'ai pleuré pendant 3 jours parce que j'avais compris que j'étais au pied du mur. J'avais enfermé ça une fois. Je pouvais pas le renfermer une deuxième fois.
Ça marche pas comme ça. Vous l'avez appris du coup avec l'expérience.
C'est ça.
On peut pas enfermer tout ça dans une boîte. Et non, comme vous dites, non. Toute l'énergie qu'on met sur quelque chose, normalement, c'est ce qui fait qu'on y va directement. Donc si on met toute l'énergie à enfermer quelque chose dans une boîte, ben, cette énergie, elle est là justement. Donc elle attend qu'une chose, c'est d'exploser.
C'est ça, ça a complètement explosé. Et aujourd'hui, la seule chose que je regrette finalement, c'est d'avoir attendu autant de temps, finalement, d'avoir perdu tout ce temps-là.
Non, ne dites pas ça, Maxime, parce qu'on fait les choses quand on est prêt à les faire. Si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que vous n'étiez pas prêt avant. Une fois de plus, c'est toujours facile après, quand on a l'expérience ou la maturité, de dire j'ai perdu du temps, j'aurais dû le faire plus tôt. Non, c'est arrivé quand vous étiez prêt à le faire.
Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Il y a un temps pour toute chose, effectivement. Peut-être que je manquais un peu de recul, un peu d'énergie, peut-être.
Alors, vous, bon, avec vos parents, quand est-ce que vous avez renoué le dialogue autour de ça, alors ?
C'était il y a du coup un an et demi à peu près. Je suis allée voir mes parents et je leur ai dit, ben voilà, est-ce que vous vous souvenez quand j'avais 15 ans que je vous ai dit que j'étais un garçon ? Ils ont dit, ben oui, on s'en souvient. J'ai dit, ben en fait, ça ne m'a jamais quitté. Ça a toujours été présent, ça a toujours été en moi. Et aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière, je vais aller au bout de ma démarche. Donc du coup, tout le monde a pleuré, tout le monde s'est pris dans les bras. De ce point de vue-là, j'ai énormément de chance parce que j'ai des parents adorables, formidables.
C'est ce que j'allais vous dire, mais quelle chance.
J'ai une chance énorme.
C'est tellement rare d'entendre ça.
Ouais. Et c'est aussi pour ça que je voulais téléphoner ce soir, c'est pour donner un petit peu de message d'espoir à toutes les personnes qui sont dans mon cas, à qui se disent que peut-être c'est impossible. Eh bien, sachez que c'est possible, vous pouvez. Alors, ça demande de l'énergie, ça demande du courage. Peut-être qu'il y a des gens qui vont tourner le dos, c'est possible. Moi, il y a quelques personnes qui se sont quand même montrées bien réticentes. Alors, à certaines personnes, il a fallu du temps, d'autres personnes qui ont coupé les ponts, et puis d'autres personnes qui, au contraire, se sont vraiment rapprochées et me soutiennent aujourd'hui vraiment à fond. Et voilà, quand j'ai pu bénéficier de ma première opération, ils étaient là pour me soutenir, pour m'aider, aussi bien mes parents que quelques amis proches. Et voilà, essayez de bien s'entourer des bonnes personnes, et s'il y a des personnes qui tirent vers le bas ou autre, essayez de s'en détacher. Alors, ça peut des fois être plus facile à dire qu'à faire, j'ai bien conscience. Mais essayer dans tous les cas de se dire qu'on ne vit qu'une fois et qu'on ne vit pas pour les autres. Et voilà, tant pis, même si ça peut faire un peu de casse autour de soi, parfois il suffit simplement de prendre le temps.
Ça fait la casse autour de soi, puis ça vous répare vous. C'est ça le plus important.
C'est ça.
Est-ce que vous voulez bien me raconter un petit peu les opérations sans rentrer dans les détails ? La première opération, par exemple, c'est laquelle ? La poitrine ?
Oui, j'attendais avec vraiment impatience. Donc là, je suis à 3 mois post-op. Donc tout va très bien.
Et ça s'est bien passé ? Oui, super.
Ça s'est bien passé, oui. Donc voilà. Après, pour l'instant, je ne souhaite pas pour l'instant faire d'autres opérations. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont m'entendre ce soir et qui vont dire « Oui, mais ce ne sera jamais un vrai garçon s'il n'y a pas de pénis » ou des choses comme ça. Eh bien, ça, c'est des pensées qui sont complètement fausses, voilà. Être un garçon avec un vagin, on peut être une femme avec un pénis. Ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur. C'est l'énergie, c'est l'amour qu'on peut donner aux autres, c'est l'amour qu'on peut recevoir. C'est ça qui est important. Ce qu'on a dans le slip, finalement, c'est pas ça qui fait la personne, c'est pas ça qui fait l'individu. Quand je me promène dans la rue, personne ne va voir ce que j'ai dans mon caleçon.
Et non, vos valeurs, elles sont dans votre cœur, elles ne sont pas dans votre pantalon.
C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, moi, ce qui compte pour moi, c'est de me sentir bien.
Alors,
je sais que je souffrirai toujours. Je ne serai jamais l'homme que j'aurais souhaité être à 100%. Je sais que je ne serai jamais 1m90. Je sais que je ne pourrai pas avoir d'enfant avec mes organes génitaux. Enfin, concevoir comme on peut le concevoir avec un pénis. Enfin, je sais que ce ne sera jamais parfait. Mais j'essaye de m'approcher au mieux de ce qui est bon pour moi. Et de me sentir bien dans ma peau, de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, c'est ce qui compte, être épanouie plutôt qu'enfermée toute sa vie à jouer un rôle qui n'est pas le sien finalement.
Et vous croyez que ça existe, des gens parfaits en plus ?
Oh non, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc voilà, c'est un parcours du combattant quand même, il faut se battre aussi avec soi-même, et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain aussi. Moi, par exemple, qui suis très impatient, voilà, un traitement hormonal, ça prend du temps. Là, je suis à 1 an et demi de traitement hormonal. Bon, ma voix est un peu plus grave qu'avant quand même. Je pense que ça s'entend.
Puis ça se travaille aussi, la voix, même sans traitement.
Oui, bien sûr. Après, il y a tout un tas de personnes trans également qui ne prennent aucun traitement, qui ne souhaitent aucune opération. Ça n'enlève en rien leur légitimité. Et s'ils ont envie d'être dans leur genre, qui est garçon ou qui est fille... c'est pas parce qu'ils ont une tête de fille, par exemple, et qu'ils souhaitent être garçon qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Il y a différents degrés, on va dire, mais il ne faut pas renvoyer les gens à ce qu'ils sont physiquement. C'est vraiment à l'intérieur, c'est dans sa tête, c'est dans son cœur que ça se passe, principalement.
Alors, vous me disiez tout à l'heure que parmi tous les gens qui vous entouraient, il y a eu des réactions très différentes. Quelle a été pour vous la plus grosse déception, par exemple ?
Oh, j'ai un ami avec qui je jouais beaucoup de musique. On se voyait tout le temps. Et oui, depuis ce temps-là, j'ai plus de nouvelles. En fait, il m'a dit oui, tu seras jamais un garçon. Ça sert à rien ce que tu fais. C'est pas chrétien. Enfin, voilà.
C'est contre la religion là-dedans. Oui, d'accord.
Bon. Oui, c'est contre nature, ouais, bon. Tout ça. Bon. Je ne m'attendais pas, c'est bien le dernier en plus que je m'attendais à avoir une réaction comme ça. Ça m'a d'autant plus étonnée. Mais bon, c'est tout. Je fais mon chemin, je ne m'empêche pas d'avancer. Et puis, mon propre chemin. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Et si un jour il revient vers moi, je l'accueillerai avec grand plaisir. J'espère qu'on pourra refaire de la musique ensemble. Ça, c'est un grand souhait. Et puis, on verra. Donc, ça, oui, ça a été une réaction qui a été un petit peu compliquée. J'ai beaucoup souffert de ça. Mais. Je me suis dit, tant pis, je dois avancer.
C'est lui qui a des choses à apprendre encore, en fait.
Sûrement. Alors, bon, j'espère qu'il changera d'avis et qu'il fera preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. On n'est pas des monstres, on n'est pas des malades mentaux. Je suis sain de corps et d'esprit. je n'ai jamais fait de mal à personne non plus. Je n'ai pas l'intention d'en faire. Je suis quelqu'un qui déborde d'amour et de gentillesse.
Ça s'entend. Et alors, à l'inverse, justement, qui vous a surpris par une réaction à laquelle vous ne vous attendiez vraiment pas, une réaction positive, de soutien, de chaleur humaine ?
Alors, quand j'ai fait mes démarches pour changer mes prénoms à la mairie, j'avais demandé sur Facebook de l'aide à mes connaissances, que ceux qui veulent bien m'envoyer un courrier, une carte postale, une petite lettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter un dossier de changement de prénom, il faut des preuves qu'on utilise son nouveau prénom.
Ah bon ?
Sachant que c'est difficile. Ouais, mais c'est difficile d'avoir des preuves qu'on utilise son nouveau prénom, parce que par définition, le nouveau prénom, si on en fait la demande officielle pour le changer, c'est qu'officiellement, on est toujours à
son ancien prénom. Oui, c'est un sketch à la Raymond Devos, ça marche pas, oui.
Le serpent qui se mord la queue. Ouais. Donc, ça a été très difficile, impossible de fournir un papier d'assurance, par exemple, impossible de fournir un papier de contrat d'électricité, parce que pour tous ces documents-là, il faut la carte d'identité. Mais donc, ça n'est d'aucune utilité, puisque c'est encore un ancien prénom. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue.
C'est absurde, ça, comme demande, effectivement. Ouais.
C'est comme ça. Ouais. Donc, il faut apporter des preuves qu'on utilise son nouveau prénom.
Et comment on a des preuves de ça ?
Alors, moi, j'ai eu la bonne idée de demander sur Facebook à mes amis de m'envoyer des lettres, des courriers à mon adresse postale. Donc, j'ai reçu énormément de cartes postales. Bonjour Maxime, cher Maxime.
Souligné trois fois, Maxime.
C'est ça. Donc, je me suis pointée à la mairie avec 90 pages en tout genre. Donc,
ça, c'est sympa.
Donc, la demande a été acceptée, du coup, sans difficulté pour ma part. grâce justement à toutes ces lettres de soutien, y compris des gens du coup que je n'avais pas vus depuis très longtemps, mais avec qui j'ai entretenu une correspondance sur Facebook, et j'ai été étonnée de recevoir des fois des courriers de certaines personnes. Je me suis dit, ben mince, cette personne-là, on ne s'est pas vue depuis 3 ans, 4 ans, et je reçois un courrier touchant, me souhaitant plein de courage. Beaucoup de choses comme ça, et ça m'a donné vraiment de l'énergie pour poursuivre tout ça, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle carte d'identité et j'en suis très fière.
Ah ben, j'imagine bien. Il y a Théodora qui nous écrit, qui vous écrit, l'acceptation de qui on est, mais des mois, voire des années. Bravo à Maxime, merci pour votre témoignage. Et puis, il y a Cathy qui vous dit « Sandra Forgue, ou Forguet, je ne sais pas comment ça se trouve, c'est Forgue, est un champion olympique devenu femme. » Oui, j'ai entendu parler d'elle récemment. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou vu aussi.
Oui, j'ai vu aussi.
Qui avait raconté aussi son expérience. C'est-à-dire que la différence entre maintenant et il y a quelques années, c'est que maintenant, on en parle.
C'est ça. Et c'est aussi pour ça que je voulais intervenir ce soir à la radio. C'est pour dire à tous ceux qui sont dans mon cas, qui soit sont en cours de transition comme moi, et ben, ne lâchez rien. Et à tous ceux qui n'osent pas se lancer, qui ont peur, eh bien, lancez-vous, battez-vous. De toute façon, ce sera un combat tout le temps. Ce sera un combat tout le temps jusqu'à ce que les gens se sentent bien dans leur tête, bien dans leur peau. C'est un combat, mais je me dis de toute façon, quitte à mener un combat, est-ce que c'est plus facile de se battre pour être soi ou est-ce que c'est plus facile de se battre à tout ranger dans cette petite boîte ? Personnellement, je me suis dit, allez, on arrête avec cette petite boîte et quitte à se bagarrer, autant se bagarrer pour quelque chose. Donc j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là qui sont dans la peur d'oser se lancer, toutes les personnes qui ressentent ce mal-être vis-à-vis d'eux-mêmes, qui savent au fond d'eux-mêmes que c'est ça, eh bien, lancez-vous, faites-vous entourer. Aujourd'hui, il y a plein d'associations, il y a également beaucoup de forums. N'hésitez pas à aller voir sur les chaînes YouTube. Il y a pas mal de YouTubeurs, hommes ou femmes transgenres, qui partagent leur parcours, leur expérience, avec qui il est justement parfois facile d'envoyer un message et d'avoir une réponse, d'être aiguillé pour obtenir de l'aide, que ce soit psychologique ou médicale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui osent s'occuper de nous, nous fournir un traitement hormonal et nous faire bénéficier d'opérations quand on le souhaite, bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Donc voilà, c'est un combat, mais je pense que c'est un combat qui vaut le coup d'être mené. Et voilà.
Et vous faites bien de le dire, mais vous m'avez parlé de vos parents avant. Est-ce que maintenant, c'est complètement intégré pour eux et surtout le reste de la famille, est-ce qu'il y a des grands-parents qui sont encore là, par exemple ? Parce que quelquefois, la génération d'avant, ça peut être plus compliqué de leur faire comprendre ça.
Alors, les parents sont super, impeccables. Bon, ma mère, il lui a fallu un petit peu de temps, pas à se faire à l'idée, mais à me parler au masculin. Ça a été assez difficile pour elle.
Ça peut se comprendre, oui, ça peut se comprendre.
Mais
c'est pour une maman.
À chaque fois, elle se reprenait, à chaque fois, elle s'excusait et tout ça. Donc,
c'est adorable.
C'est parfaitement intégré, ouais. Ça va mieux, tout va bien, il n'y a pas de problème. Au niveau de ma famille, ben, je dois dire que j'ai une famille assez petite, assez restreinte, donc on a vite fait le tour. Mes grands-parents, c'est vrai que j'avais un peu peur de les brusquer, parce qu'ils ont 86 et 88 ans, si je ne me trompe pas. Ils ont encore toute leur tête, hein, et donc j'ai fini par leur dire, et donc à mon grand étonnement, ils ont compris, ils ont absolument tout compris. Et ils ont dit, bah, on accepte, maintenant ce sera Maxime, et puis c'est comme ça. Et on avait pensé qu'ils n'avaient pas compris au début. Mais en fait, ils ont dit, oui, à la télé, des fois, ils en ont parlé. Il y avait des gens qui témoignaient de leur expérience. Donc, on sait ce que c'est, donc on a compris, donc on accepte.
Ça, c'est vraiment c'est formidable.
J'ai été très étonnée. Et je m'estime extrêmement chanceuse de tout ça, parce que je sais qu'il y a des personnes dans mon cas qui se sont complètement rejetées par leur famille. Je sais que ça peut être extrêmement difficile. Moi, je m'estime vraiment très, 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 très chanceux de ça. Et voilà, je voulais dire une dernière chose qui me paraît importante. Là, ça s'adresse plus à l'entourage des personnes comme moi. C'est-à-dire que si vous avez un enfant, un cousin, un proche qui vous fait part d'un désir de transition, eh ben, soutenez-le parce que ce sera toujours la même personne, finalement. Toujours la même personne avec qui vous discutez, avec qui vous riez, avec qui vous pouvez partager des loisirs, des activités, des passions communes, parfois. Et puis, quand c'est son propre enfant, c'est d'autant plus important. On ne peut pas renier ses propres enfants. Ma mère, elle me dit toujours, tu resteras toujours mon enfant. Et je pense que quand on aime son enfant, qu'il soit fille ou garçon, on aime son enfant. Et donc, je voudrais dire à tous les parents qui m'écoutent et qui ont peut-être un enfant trans, que ce soit une trans-fille ou garçon, soutenez votre enfant, aidez-le, accompagnez-le. Et ne rejetez pas, ça ne sert à rien, parce que vous allez vous couper de quelque chose de précieux, vous allez vous couper de votre propre enfant. Ça va faire du mal à tout le monde, ça va faire du mal à vous et ça va faire du mal à vos enfants. Donc voilà, soyez compréhensifs, prenez le temps. J'ai bien conscience qu'il y a des parents, ça va faire un choc, ça fait toujours un choc. Donc il faut du temps, mais rejeter ne sert à rien. Rejeter, bannir ne sert à rien et ça fait du mal à tout le monde.
La seule chose dont tout le monde a besoin dans des cas comme ça, c'est d'amour.
C'est ça, c'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer aujourd'hui, c'est l'amour vraiment de mes parents, de mes amis proches, c'est ce qui m'a aidé. Dans tous les cas, j'y serais allée, dans tous les cas, j'aurais foncé. Mais c'est sûr que quand on est accompagné, entouré, soutenu, compris, ça change énormément de choses et tout se passe vraiment mieux. Voilà.
Il y a Louis qui nous écrit « Maxime, vous êtes un type bien, peu importe ce que pensent ou disent les gens, l'essentiel est que vous soyez en harmonie avec vous-même et bravo à vous. »
Ouais, c'est gentil, ça me fait plaisir.
Un grand merci Maxime pour ce témoignage rempli de sincérité. C'était vraiment intéressant de parler avec vous et d'apprendre des choses aussi.
Ben oui, ça m'a fait plaisir de discuter, de pouvoir livrer ce message-là. J'espère que ce sera entendu par beaucoup de personnes.
Je l'espère aussi, car c'est un message vraiment important.
Oui, et je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui entament leur transition, ne lâchez rien, ou qui sont en cours de transition, ou ne lâchez rien, battez-vous, et ça vaut le coup. Voilà.
Merci Maxime.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
Parfois on se met des coups de fatigue, des coups de blues au bout des doigts. D'abord c'est simple, puis ça se complique, comme des tas d'histoires qui n'avancent pas. Rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde de fous. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars et moi je reste ici. Toi tu pars et moi je reste ici, ici, ici. Trop de faux départs, on ne voit pas la ligne arriver. Partir trop tôt, c'est déjà trop tard, et on finit disqualifié. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde de fous. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars, moi je reste ici. Toi tu pars, moi je reste ici, ici, ici. Yeah, 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 yeah.
Toi tu pars, c'était ces phases.
Vous aussi, laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et simplement pour passer à l'antenne, si vous avez envie de parler de quoi que ce soit, tous les sujets sont abordés ce soir sur cette libre antenne. Vous faites le 39-21. Nous attendons vos appels et je vous recevrai avec grand plaisir. Et c'est Marie-Claude que je reçois justement maintenant. Bonsoir Marie-Claude.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Ben, c'est gentil, merci.
Alors de quoi voulez-vous parler ce soir?
Ben, de mon problème de cancer du sein.
Oui.
J'en ai eu un en 2018. Et donc, suite à ça, j'ai un contrôle tous les ans.
Ça veut dire que vous êtes en rémission maintenant?
Ben oui, jusqu'à mercredi où j'ai fait ma mammo et ils ont vu un nodule sur ma cicatrice. Donc, je dois faire une biopsie et je dois, après la biopsie que je fais demain, je vais devoir attendre 10 jours les résultats.
Mais c'est le plus long, c'est la période compliquée quand on attend.
Mais oui, mais je comprends pas qu'on nous fasse subir ça quand on a déjà eu un problème. Je comprends pas que ce soit si long, quoi. Parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est bénin ou malin.
Oui, bien sûr.
Alors là, c'est un peu difficile pour moi.
Bon, le pire n'est jamais sûr, hein, déjà, Marie-Claude, vous savez ça.
Oui,
il se peut aussi que ce soit juste un nodule bénin.
Voilà.
Donc avant d'appuyer sur le bouton panique, il faut arriver à respirer et attendre. Je sais que c'est très difficile et plus facile à dire qu'à faire.
Ouais, et c'est surtout que je me revois, je me remets 3 ans en arrière.
Bien sûr.
Si je me dis que j'ai à nouveau un problème, je trouve qu'on n'est pas du tout aidé au niveau psychique.
Psychologique, vous voulez dire, oui.
Ouais, parce qu'en fait... on n'écoute pas du tout notre histoire personnelle. Et en fait, moi, je sais pourquoi j'ai attrapé un cancer. Parce qu'il y a beaucoup de stress, je pense, qui joue. Mais ça, le personnel médical ne veut pas en entendre parler.
Mais le stress est un facteur déclenchant de quelque chose qui s'est passé avant. Hein.
Voilà. À part les infirmières, les infirmières sont d'accord avec nous, mais mon oncologue ne veut pas en entendre parler. Et en fait, moi, j'ai eu un gros problème. J'ai été violée par un prêtre à l'âge de 6 ans.
Ah, voilà. Ouais.
Et donc, je m'en suis rappelée très tard.
C'est-à-dire ?
J'avais 40 ans.
Mais à quelle occasion, en fait, c'est revenu ?
Bon, en fait, je me sentais pas bien du tout et je ne voyais pas d'où ça venait. Je comprenais rien. Et comme je suis quand même dans le milieu médical, je me dis, il faut que je me prenne en main.
Oui.
Alors c'était ça ou me suicider, quoi. Mais comme c'est pas dans ma nature, j'ai cherché et je suis tombée sur des bons thérapeutes qui m'ont fait, qui m'a mis le doigt sur mon traumatisme. Donc je me suis rappelée juste d'une scène. Mmh. En 44 ans, là, et 40 ans. Et puis, après, bon, bah, j'ai vécu ma vie de femme non sans mal, parce que tous les problèmes hormonaux, sexuels, etc.
Le corps, lui, se souvenait très bien, hein, en réalité.
Exactement.
Bien
Donc,
sûr.
En fait, à 40 ans, j'ai tout de suite compris tout ce qui m'était arrivé avant, tous mes problèmes.
Mais quand vous me disiez, j'avais un mal-être, ça se... Qu'est-ce que vous ressentiez? Comment vous vous sentiez quand vous dites mal-être? Ça se prononçait comment?
J'étais...
Dépressive?
Je ne sais pas comment expliquer.
Oui,
c'est ça, un peu. Plutôt tendance... Et comme j'avais une mère comme ça, je ne voulais absolument pas lui ressembler. Donc, faire comme elle, devenir comme un... Mmh. Parce qu'elle était dépressive grave, en fait. Oui. Donc, avec plein de médicaments, donc je ne voulais surtout pas ça. Donc, j'ai cherché autre chose. Et donc, j'ai travaillé sur le corps, beaucoup.
Oui, oui. C'est tellement important et c'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup de gens encore qui passent à côté de ça.
Oui.
Qui ne comprennent pas
il faut
écouter son corps tout le temps. Il ne ment jamais.
Mais tout le personnel médical ne vous écoute pas, en gros.
Mais ils sont pas formés à ça la plupart du temps.
Bah oui, voilà, exactement. Et donc l'oncologue que j'ai eu il y a 3 ans, c'était une jeune femme qui sortait tout frais de ses études. Et donc malheureusement, elle n'avait pas encore d'expérience. Et puis, je pense qu'on l'avait encore éduqué sans travailler le psychologique, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, c'est déjà bien que vous ayez, vous, trouvé cette piste toute seule. C'est formidable.
Bah, en fait, je suis toute seule depuis que je suis née, je crois. Parce que je suis la dernière de 7 et déjà j'étais la seule non désirée.
Ah.
Donc, mais j'ai travaillé là-dessus. Je comprends ma maman qui, de toute façon, était déjà malade quand elle m'attendait. Donc, j'ai revécu même dans son ventre. J'ai travaillé tout ça, quoi.
Dites donc, vous avez fait un sacré chemin déjà, hein?
Oui, j'ai fait. Heureusement, je suis tombée sur des bons thérapeutes.
Ça, c'est une chance, oui.
Ben, faut bien un petit peu.
Heureusement que ça arrive. Malheureusement, j'entends tellement souvent le contraire. Ça fait du bien d'entendre qu'il y a des gens qui sont bien accompagnés, heureusement.
Oui. Parce qu'en fait, j'ai été confrontée au pouvoir familial, au pouvoir religieux et au pouvoir médical. Donc, ça fait beaucoup.
Oui, mais là, ce que j'entends, c'est que vous avez repris le pouvoir.
Ben,
si.
Oui, je sais pas ce qui me prend au nez. Si on me dit que c'est malin, là, mon truc.
Alors attendez, on va y venir, on n'y est pas encore. Comment ça s'est passé la première fois? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qui vous a annoncé ça et comment?
En 2018.
Oui.
Ah, c'était la mammo de contrôle.
D'accord.
Donc, et là, je suis tombée des nues parce que j'en avais aucun. À l'extérieur, il n'y avait aucune boule, rien. Ça s'appelle un cancer infiltrant. Donc, ça ne se voit pas à l'extérieur, ça ne se sent pas. Et en fait, comme j'avais subi en 2016, j'avais commencé à le dire à ma famille. Donc, j'ai été reniée. J'avais dit à l'église en 2012, j'ai mis 5 ans. Pour que ce soit reconnu.
Ah.
Donc, 2015.
Vous vous rendez compte l'énergie que vous avez dû mettre là-dedans?
J'arrête pas, ouais. Mais là, le coup du... Si j'ai à nouveau un truc, je sais pas si je vais pas.
Alors, est-ce que vous vous souvenez des mots qui ont été employés quand on vous a annoncé ce cancer? Qui vous a dit quoi précisément?
C'est la radiologue, elle m'a dit. Tout de suite, elle m'a dit de toute façon, vous allez avoir chimio, opération, radiologie et hormonothérapie.
Okay,
et hop,
donc,
circuler, il n'y a rien à voir.
Ouais, c'est ça, le coup de bambou sur la tête et aucun accompagnement avec.
Non.
Formidable.
Rien du tout.
Ah là 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 là, c'est fou, évidemment. Donc tout ça, c'est ancré en vous. Et c'est
ce
qui est en train de
remonter
en ce moment.
Quand, quand j'ai consulté, la même chose, j'ai été reçue par une chirurgienne. La chirurgienne, et là, le même topo. Donc là, je me suis écroulée, j'ai dit, de toute façon, je sais pourquoi j'ai ça, j'ai été violée. Alors, elle a été surpassée par mon témoignage, et elle a appelé le psychiatre de là-bas,
oui.
Parce qu'elle ne savait pas, elle était débordée. Mais le psychiatre voulait me donner des médicaments, parce qu'il avait peur que je décompresse, ce qui m'a fait questionner sur ma famille. Donc, comme il y a eu des suicides dans ma famille, que ma mère était dépressive, etc., j'ai dit, mais non, c'est pas ça que je veux.
Oui, c'est ça, c'est qu'il ne vous a pas écouté, il vous a...
Non,
oui, bah oui.
Non, jamais je suis écoutée.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi je dois vivre ça, je ne sais pas. Depuis que je suis petite, je vis avec des gens qui ne m'écoutent pas.
Et en même temps, moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force intérieure. Et c'est probablement c'est le fait d'avoir dû vous battre toute seule qui vous a rendue forte.
Oui.
Chaque situation douloureuse nous apprend des choses aussi. Les gens qui grandissent dans du coton manquent souvent beaucoup de caractère, de force, de courage, parce qu'ils n'ont jamais eu à se confronter à quoi que ce soit. Vous vous êtes confrontée à plein de choses toute seule et vous avez trouvé plein de chemins toute seule. Ce cancer, vous l'avez vincu.
Voilà.
Vous êtes
passé.
Comment ça s'est passé, ça? Vous avez eu quoi finalement? Vous avez eu chimio ou tout ce qu'ils vous ont annoncé?
J'ai tout eu.
À la totale?
Ouais. J'ai eu la totale. Ouais.
Et à chaque
donc,
fois
ouais. Je me suis fait aider quand même par l'acupuncture, les huiles essentielles et tout ça, quoi, l'homéopathie. Et j'ai même là-bas, je me souviens, en chimio, j'ai été voir une dame qui n'était pas bien du tout. Et elle vomissait sans cesse. Et je lui ai donné des conseils. Elle m'a remercié parce qu'ils ne vous disent rien. Et moi, mon oncologue, elle m'a dit, si vous y croyez. C'est grave. Hein.
Alors ça, heureusement, ça change, mais malheureusement, je n'ai entendu ça qu'en région parisienne, je crois que c'est du côté de Levallois, où ils ont ouvert un centre qui prend en charge les gens qui ont un cancer, mais sur tous les plans. On leur propose bien sûr des rendez-vous avec des oncologues, mais ils ont aussi de la musicothérapie, ils ont des sophrologues, ils ont des acupuncteurs, ils ont des ostéopathes.
Et, ah bah c'est bien.
Et ils ont enfin compris que c'est en abordant le sujet, le problème par tous les côtés, qu'on arrive à aller beaucoup mieux. Évidemment, quand on aide son corps à gagner, ben c'est formidable.
Et alors, je vais même vous dire, le deuxième protocole, il faisait deux piqûres avant, et il y en a une, j'ai cru pour mon cœur, et elle s'est arrêtée. C'était des corticoïdes, donc l'infirmière a bien compris que ça ne convenait pas. Donc j'ai demandé à l'oncologue de la diminuer au moins. Elle a dit non, vous allez être malade. Elle ne m'a pas écoutée encore une fois. Et j'ai dû attendre qu'un interne, heureusement, je ne le remercierai jamais assez, la remplace, parce que au bout de la troisième fois, c'était un interne qui est venu. Et lui, il m'a écoutée.
Ah.
Et donc, il a supprimé ce que j'ai demandé. Et puis, tout s'est bien passé.
Mais c'est votre corps, c'est vous, bien évidemment, c'est vous qui ressentez.
Ben, je sais bien. Et alors, mais pourquoi ils ne nous écoutent pas ? C'est ça que je comprends pas.
Je vous dis, il y a plusieurs choses. D'abord, il y en a beaucoup qui ne sont pas formés à ça. Vous savez, les termes négatifs, j'en parle souvent. Quand on dit à quelqu'un, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Le cerveau, il entend quoi ? Peur et mal. Une fois encore, c'est un exemple que j'utilise très souvent, notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant bleu, la première image mentale que vous faites, c'est l'éléphant bleu. Mmh. On ne peut rien contre ça. Donc si on vous dit n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Et ben voilà. Mais moi j'ai essayé d'expliquer ça à un gynécologue il y a quelques temps qui disait n'ayez pas peur, ça fera pas mal longtemps. Je lui dis vous vous rendez compte que dans votre phrase, il y a peur, mal et longtemps. Il n'a jamais compris quand j'ai lui parlé de ça. Il n'a jamais voulu comprendre. Parce que malheureusement, ce sont des gens qui n'ont pas encore été formés à cette façon de parler qui est extrêmement importante. Quand on est malade, on est encore plus fragile. Chaque mot compte. Chaque mot est imprimé.
Alors, si jamais je dois y retourner, moi j'ai déjà dit à ma générale, je ne veux pas retomber sur la même oncologue. Hein.
Bah, de ce que j'entends, effectivement, si vous pouviez changer un petit peu d'environnement médical, ce serait peut-être pas mal. Et surtout, commencez-vous déjà dans votre esprit à essayer d'appuyer sur le bouton pause, à ne pas commencer des scénarios catastrophes, à ne pas mettre votre énergie là-dedans, mais au contraire à mettre votre énergie dans des choses positives. À vous dire, voilà, d'abord, il y a une chance sur deux que ça soit bénin. Ça arrive très fréquemment. Et si ça ne l'est pas, eh bien, vous avez surmonté le premier, vous surmonterez le deuxième. Surtout que vous avez compris d'où ça vient, donc voilà.
Oui.
Il y a un sacré bout de chemin qui a été fait.
Je sais, j'ai compris, mais alors pourquoi si jamais j'ai là une petite rechute, là je comprends pas d'où ça vient.
Parce que le corps a aussi besoin de temps, et peut-être que ça n'a pas suffi, qu'il y a encore des choses à évacuer. C'est pas toujours aussi simple. Vous savez, il faut des années pour que le corps imprime des émotions, des souffrances. Et quand ça ressort après, c'est pas mathématique, hein, ça ressort pas de telle heure à telle heure, à tel jour, et ça s'arrête pas forcément comme ça. Il y a aussi des gens qui déclenchent des maladies dont on ne guérit pas. Mais qu'on arrive à gérer différemment aussi selon la manière dont on prend les choses.
D'accord.
Vous avez compris à quel point l'émotionnel est important.
Ah oui. Bon, c'est vrai que je me suis battue par rapport. J'ai l'impression que rien ne bouge, quoi. Mais je suis remontée jusqu'à Paris pour pouvoir être reçue par le Monseigneur qui ne voulait pas m'entendre. Donc, c'est pour ça que ça a mis 5 ans. Bon, maintenant, son seigneur est mort et a été remplacé par un autre qui, a priori, m'écoute plus. Mais après, il y en a un autre qui m'a envoyé à... Parce que dans le Nord, si vous voulez, c'est 3 diocèses qui sont associés. Donc, c'est le seul endroit où ça fonctionne comme ça. Donc, comme là, j'arrivais pas avec le monseigneur en question, j'ai fait appel à un autre. Et l'autre en question, il m'a envoyé à une psy qui m'a démolie.
C'est pas possible.
Et alors, c'est pareil, là, j'ai appris que c'était les seuls qui faisaient appel à un établissement public. Tous les autres, ils font appel à des psys privés. Mais là, j'ai signalé, mais tout reste en place, quoi. Donc, la psy continue. Le Monseigneur m'a pas dit pardon, il sait très bien qu'il m'a fait des mal, il m'a pas dit pardon, mais il est toujours là. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge.
Alors, voici, rien ne bouge sauf vous, ce qui est déjà bien. Mais ce que j'entends là dans votre témoignage, c'est qu'il y a justement quelque chose qui n'est pas encore fait, c'est que vous attendez encore une libération de ce qui s'est passé, un pardon.
Ah.
Et c'est peut-être ça que votre cœur est en train de vous dire. Il y a encore quelque chose à débloquer de ce côté-là. Mm. Il y a probablement une colère et un sentiment d'injustice très profondément ancré.
Bah oui, parce que je sens la justice par rapport à ma famille. Maintenant, ça, je crois que j'ai travaillé, c'est bon.
Oui.
Mais
Marie-Claude, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte pause, le temps de laisser la place aux informations.
Oui.
Et on reprend notre conversation dans quelques minutes, si vous le voulez bien.
D'accord.
D'accord ? Merci beaucoup à vous. À tout de suite.